Grand Bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
Grand bien vous fasse, bonjour Ali Rebéi.
Bonjour, je sais pas comment je vais tenir avec ma toux là jusqu'à 11h, on va essayer. On parle du cyberharcèlement, Laetitia Gaillet, vous êtes cyberharcelée.
Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je reçois des mails régulièrement d'une personne qui visiblement ne m'aime pas.
Et qui change d'identité à chaque fois.
J'imagine, parce que les mots sont toujours les mêmes.
Qu'est-ce que vous allez faire justement pour lutter contre ce cyberharceleur qui vous pourrit un peu la vie?
La question étant de savoir s'il me menace, non, il décrypte tout ce que j'écris et il dit que je suis en gros quelqu'un de très mauvais, je suis lamentable d'ailleurs.
C'est pas vrai.
Que je travaille pas, que je mérite pas ma place, etc. Qu'il veut lancer une pétition pour qu'on me supprime ma place. La question en fait que j'ai posée, c'est effectivement, j'avais déjà reçu des lettres de menaces, mais des lettres écrites d'une autre personne. Là, il y avait le service juridique de Radio France qui s'était mis dessus, parce que j'étais vraiment menacée. En revanche, là, j'ai pas de menace physique, où j'ai juste
un
quelqu'un
dénigrement.
Qui tous les jours... ou régulièrement, des fois c'est tous les jours, des fois c'est toutes les semaines, mais qui régulièrement, depuis l'automne, m'envoie des mots. Et donc, on n'imagine pas la violence de ces mots-là, et je trouve ça, moi j'essaie de faire mon boulot, je lui plais pas, je suis désolée à ce monsieur.
Mais vous nous plaisez à nous, c'est le plus important.
Ça me fait plaisir.
Laetitia, merci beaucoup d'avoir témoigné.
Je vous en prie.
À tout à l'heure, à 11h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. C'est une vague de haine qui se déchaîne sans foi ni loi. Dénigrement, insultes, divulgation de données personnelles, infox, menaces d'agression, de viol, d'assassinat, avec un but: humilier, terrifier, rabaisser, détruire. Le cyberharcèlement pourrit la vie des victimes, les rend malades et peut même les pousser au suicide. Comment expliquer cette haine numérique? Qui sont les cyberharceleurs? Quelle est leur psychologie? Qui sont les victimes? Comment lutter efficacement contre le lynchage en ligne? Comment neutraliser ce qui se déchaîne avec la joie mauvaise d'anéantir? Comment naît la mécanique du cyberharcèlement? Comment l'enrayer? Faut-il en finir avec l'anonymat sur Internet? Élément de réponse ce matin avec le psychologue Bruno Humbeck, l'enseignante Stéphanie Devancé et David Groison, rédacteur en chef du mensuel Phosphore. Si vous avez été victime de cyberharcèlement ou parent, si vous êtes un harceleur repenti, n'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, qui porte chaque semaine un regard singulier sur notre société, avec une question cette semaine.
Pourquoi tant de violence? Ça tombe bien.
Exactement. À tout à l'heure Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebéi.
Pour nous aider à lutter contre le cyberharcèlement, trois invités. Bruno Humbeck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, chercheur associé à l'Université de Mons. Vous êtes le co-auteur de Prévention du cyberharcèlement et des violences périscolaires chez Deux Boucs, particulièrement destiné à la communauté enseignante, mais pas que. Bonjour Stéphanie Devancé.
Bonjour.
Vous êtes enseignante détachée, conseillère nationale pédagogique pour le numérique dans un syndicat enseignant, et vous publiez chez Duno un manuel d'autodéfense contre le harcèlement en ligne. Bonjour David Groison.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Phosphore. Bruno Humbeck, c'est quoi exactement le cyberharcèlement, le harcèlement en ligne?
Alors, c'est du harcèlement en réalité, hein. Donc il ne faut vraiment pas en faire un harcèlement à part. C'est comme si on mettait une caisse de résonance sur un phénomène réel. Il faut bien comprendre cette notion de virtuel, c'est pas du faux harcèlement ou du harcèlement imaginaire, hein. C'est juste, c'est un peu comme si on avait donné les clés d'une Ferrari à des personnes qui viennent à peine d'avoir leur permis de conduire. Et donc dès que vous avez du harcèlement, c'est toujours un groupe réel, généralement une classe. Au mieux une école, des gens qui se connaissent, qui vont utiliser les réseaux sociaux pour installer leur agressivité. On l'a entendu dans le témoignage tout à l'heure.
Essentiellement, de Laetitia Gaillet, voilà, avant l'émission.
Essentiellement une agressivité hiérarchique. Le but, c'est de descendre quelqu'un, de prendre le pouvoir sur lui. Ça se fait systématiquement dans tous les groupes sociaux, dans toutes les classes. Donc, il n'y a pas d'espace dans lequel ça ne se manifeste pas. Et il y a un outil qui maintenant a une virulence particulière, ce sont les réseaux sociaux.
Mais dans le cas de harcèlement, dans la vraie vie, entre guillemets, dans le harcèlement en ligne, on retrouve la même intention de nuire, la répétition des actes, le rapport de force disproportionné et le sentiment d'impuissance.
Alors, le principe, c'est vraiment celui-là. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire, c'est pas... tout à l'heure, on entend une agression qui semble une agression de deux personnes. Donc, pour bien expliquer ce qu'est le harcèlement, imaginons que je vous bouscule comme ça toutes les trois minutes. C'est intentionnel, c'est répétitif et c'est relativement nuisible. mais je suis pas un harceleur, je suis juste un emmerdeur. Et vous allez très vite me le dire en disant arrêtez. Et si vous le dites pas, un autre va le dire. Maintenant, si chaque fois que je vous bouscule, je regarde quelqu'un d'autre et je me mets à sourire, je le mets en position de spectateur, c'est-à-dire quelqu'un qui agit en regardant, et je fige les rôles dominants, dominés, et ceux qu'on appelle les spectateurs. C'est pour ça que l'arène de l'espace numérique est une arène qui va intensifier les mécanismes qui figent les rôles et qui induit ce sentiment d'impuissance. Que faire contre les autres? Si je réagis publiquement, notamment, on le verra certainement, par rapport à un message qui serait humoristique ou prétendu humoristique, je vais démontrer publiquement que je n'ai pas d'humour, par exemple.
Le harcèlement physique est déplaisant, évidemment difficile à vivre, mais il a un visage. Dans le cyberharcèlement, il est très souvent anonyme, sans visage.
Alors, il n'est pas anonyme, non. Généralement, d'ailleurs, la personne s'arrange pour se faire reconnaître, parce que le but, c'est de prendre le pouvoir, et prendre le pouvoir publiquement avec des personnes qui vont adouber cette prise de pouvoir. Ce qui fait que, par exemple, des réseaux sociaux comme Saraya, qui sont des réseaux qui garantissent l'anonymat. Le réseau social n'est pas en cause, hein. C'est très utile, Saraya, pour dénoncer les dictatures. Et si on lève l'anonymat, on met des gens en danger. Mais ce réseau ne produit pas de cyberharcèlement parce que la personne n'a pas l'opportunité de dire « j'existe ». On le sait, ce que veulent les gens, il faut bien comprendre ça quand on veut envisager les réseaux sociaux, ce ne sont pas des outils de communication, ce sont des instruments d'installation du prestige social. Le but, c'est d'exister. Et si je peux exister au détriment des autres, j'existe doublement. Et donc, on a une machine, je vais dire, qui est une évolution. Et Victor Hugo le disait beaucoup mieux que moi, toute évolution, il faut toujours s'en méfier parce qu'elle fait avancer les choses, mais elle broie des gens.
Mais dans le cas du harcèlement de Laetitia Gaillet, raconté avant l'émission, ce harceleur, il est anonyme.
Alors, il est anonyme, mais il s'arrange pour se faire connaître en public. Donc, ce sont des messages publics qui visent à discréditer visiblement quelqu'un à l'intérieur d'une institution et donc à prendre du pouvoir. C'est donc toujours l'agressivité qu'on retrouve derrière, c'est toujours une agressivité hiérarchique.
Stéphanie Devancé, dans le monde du harcèlement en ligne, il y a des personnages maléfiques que l'on appelle les trolls. Dans le Robert, c'est une personne qui cherche à créer la polémique sur un forum de discussion ou sur les réseaux sociaux, mais c'est une définition à minima.
Oui, c'est très difficile de définir les trolls parce qu'en plus, il n'y a pas de consensus sur la définition et tous les trolls ne sont pas des harceleurs et tous les harceleurs ne sont pas des trolls. Ce n'est pas complètement identique, même si beaucoup de trolls sont des harceleurs et beaucoup d'harceleurs.
On va s'intéresser aux trolls harceleurs.
Voilà, se comportent comme des harceleurs sur les réseaux sociaux.
Vous dites qu'il ressemble le troll au personnage de Tullius Détritus dans La Zizanie, un des meilleurs albums d'Astérix.
Voilà.
Les trolls qui mènent une guerre psychologique en utilisant nos faiblesses contre nous.
Voilà, tout à fait. Ils existent dans la vraie vie et dans la littérature de notre enfance. Et c'est un excellent exemple parce qu'en plus, on voit les bulles vertes du troll qui contaminent les autres. Et le troll sur les réseaux sociaux fait vraiment ça, c'est-à-dire que en se montrant drôle, cynique, agressif, il entraîne les autres dans son sillage qui ont du coup l'impression que ce qu'ils font n'est pas si grave puisqu'ils sont pleins à le faire.
Pour beaucoup, discuter avec un troll, c'est comme essayer de jouer aux échecs avec un pigeon. Je vous cite dans votre livre, tu as beau être très fort aux échecs, il arrive, il renverse les pièces, chie sur l'échiquier et s'en va avec l'air supérieur comme s'il avait gagné.
Oui, alors ça c'est un commentaire issu d'Amazon. Hein. C'est difficile de retrouver exactement l'auteur,
source.
La source, voilà. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que fait le troll, c'est-à-dire il vient, il met la pagaille, il prend un air vraiment très très fier, il s'en va et un spectateur non averti de l'entièreté du contexte ou de la situation peut effectivement avoir le sentiment que le troll a été brillantissime.
Quelles sont les principales caractéristiques du troll?
Alors j'en ai listé dans mon ouvrage 22 et je considère que si on en réunit la moitié ou plus, on est un troll. Il y a d'ailleurs un petit outil en ligne qui permet d'y répondre. Vous trouverez les références dans le livre et sur le blog si ça vous intéresse.
Alors il est anonyme, il fait semblant d'être naïf, joue au con, il multiplie les messages et peut enchaîner plusieurs messages à la suite sans attendre d'avoir des réponses. Il nous accuse de manquer d'humour. Il est très susceptible, il est cynique, agressif. Il s'attaque non seulement à nos idées, mais également à notre personne. Il s'adresse très souvent à des gens pour leur dire qu'il n'est pas d'accord avec eux. Il se moque de façon récurrente des erreurs de frappe, d'orthographe, de syntaxe. Il insulte facilement. Il est provocateur. Il aime choquer. Voilà, quelques-uns des traits saillants du troll.
Voilà, en sachant que quelques-uns de ces traits ne font pas le troll. Et que le troll, en plus, n'est pas une personne. C'est une posture, c'est un costume que l'on enfile de façon plus ou moins permanente. Il y a des gens aussi qui sont trolls un moment de leur vie qui ne le sont plus du tout après. Et tous, à un moment ou à un autre, si on est actif sur les réseaux, on se met à troller. C'est inévitable. Ça fait partie de la nature humaine.
À partir de quel moment devient-on un harceleur, un troll harceleur?
Quand on insiste, quand on persiste, quand on revient vers la même victime, et quand on se cherche aussi des complices.
David Groison, est-ce que le cyberharcèlement, c'est une préoccupation majeure de vos lecteurs, les lecteurs de Phosphore et de leurs parents?
Alors, ils ont du mal à mettre ce mot-là sur ce qu'ils vivent. C'est le témoignage de Laetitia Gaillet tout à l'heure. Elle disait, je sais pas si on peut appeler ça du cyberharcèlement. Et souvent, ils disent ça, notamment parce que les représentations du cyberharcèlement dans leur série télé, je pense par exemple à 13 Reasons Why, j'en discutais avec une lycéenne, Zoé, qui me disait, bah oui, mais c'est too much. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des photos d'elle qui circulent en train d'embrasser une fille, un garçon, elle assiste à un viol, elle a un accident de voiture, elle est laissée sur le bord de la route. Enfin, il y a un effet toujours de cumulation, de montrer une situation particulièrement dure. Et du coup, on se dit, bon, bah, peut-être que ce que je vis, c'est difficile, mais c'est pas du cyberharcèlement.
Bruno Humbeck.
Alors, 13 Reasons Why, c'est vraiment la belle façon de montrer ce qu'est le cyberharcèlement.
C'est une série américaine,
succession de scènes qui, individuellement, ne seraient pas problématiques. En gros, c'est l'écrasement, parce que la succession donne un sentiment d'écrasement. C'est très intéressant pour comprendre le cyberharcèlement, mais c'est catastrophique dans la manière dont on montre les pistes de sortie. C'est-à-dire le vrai problème de la manière dont le cinéma a de tout temps traité le harcèlement, et notamment maintenant le cyberharcèlement. Il suffit de regarder un film comme Carrie, par exemple, hein, et sa version de 2013, où on voit la première tuerie de masse, en gros, hein, qui est démontrée. C'est une réponse à du harcèlement ou du cyberharcèlement mal géré. Et dans 13 Reasons Why, c'est l'autre façon de sortir du harcèlement, soit la vengeance spectaculaire, soit le suicide. C'est catastrophique de montrer ça à des adolescents, de dire que les choses bougeront pas, l'école bougera pas, la société bougera pas, alors qu'on sait qu'on peut maîtriser le phénomène et que des personnes sont en mesure de le faire. On leur dit d'emblée, si tu veux faire bouger les choses, ou bien tu envisages le chemin de la vengeance spectaculaire, ou bien tu te suicides, et ça créera un mouvement.
N'hésitez pas à témoigner si vous êtes victime de cyberharcèlement. Je sais qu'il est difficile de témoigner, il est donc possible de préserver votre anonymat en modifiant votre voix. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière, Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve, et c'est réalisé par David Leprince.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde.
France Gall interprétait Résiste. Et hier, je dois vous avouer que dans son bureau, Fabienne Sintès chantait Brexit.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h21 et ce matin, on s'intéresse au cyberharcèlement. Vous pouvez témoigner si vous êtes victime ou harceleur repenti au 01 45 24 7000.
Je rentrais chez moi, je prenais la tablette, puis je regardais directement ce qu'elles avaient mis. C'est comme un rituel, quoi. Je me disais, bon, je regarde. C'était toujours la même chose. Franchement, tu fais trop pitié. Bolos, va te pendre. Tu ferais mieux de pas venir au collège demain. Enfin, ça va mal passer, tu le sais très bien. Je faisais tourner des hashtags « Je te hais » avec mon prénom pour que justement tous les autres élèves puissent le voir. Et le lendemain, quand j'arrive au collège, puissent évidemment se moquer de moi et le faire tourner aussi. J'étais au plus mal et vu qu'elle me répétait que je devais le faire, que je servais à rien, que même elle ne voulait plus me voir et que je devais avoir honte de sortir de chez moi, je me suis dit, s'il n'y a plus d'autres moyens, il n'y a plus qu'une chose à faire, quoi.
Mathilde, âgée de 13 ans, qui témoignait dans le JT de 20h de France 2 en 2016. Alors, je rappelle que le cyberharcèlement, c'est une caisse de résonance mise sur une situation de harcèlement pour en intensifier les effets. Bruno Mbeck, je rappelle que vous êtes psychologue. Le temps scolaire est débordé avec le cyberharcèlement. La personne cyberharcelée ne dispose plus du moindre temps de répit. Le harcèlement en ligne, c'est partout, tout le temps. En ce qui concerne le cyberharcèlement des élèves.
C'est ça. Le témoignage le montre très bien, d'ailleurs. Hein. Aller à l'école devient impossible. Ce qui va le montrer très facilement, c'est les daddy pics. Les daddy pics,
c'est quoi?
C'est une façon de montrer une partie de son corps sur des réseaux sociaux parce qu'on est invité à le faire. Alors, si on monte son bras sur un daddy pics, une jeune femme, ça va pas provoquer de like. Il faut bien comprendre, c'est un outil de prestige social. Donc, le but, c'est de produire du like. Donc, la personne va montrer son bras, pas beaucoup d'effet. Un bout de sa poitrine, ça monte tout de suite. Et puis, on va augmenter les niveaux d'intimité. Puis, une fois qu'on a diffusé son image sur un réseau fulgurant, dans lequel, par exemple, l'image va s'éteindre, on va la renvoyer sur un réseau permanent, comme Facebook, par exemple. Et là, la personne vit un sentiment d'écrasement absolu. Ce qu'on entend dans le témoignage, l'impression que tout le monde nous a vu. On prend l'autobus le matin, on a l'impression que tout le monde nous a vu sans vêtements. Et en plus, c'est renforcé par le fait qu'on sait que notre sphère intime nous a vu aussi. Donc, tout le monde sait que notre sphère intime nous a vu. Et notre sphère intime sait que tout le monde nous a vu. Donc, on a un sentiment, même si le harcèlement s'arrête temporairement.
Tout l'espace social est contaminé par le virus du harcèlement.
Voilà, et c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite et que c'est très virulent sur le plan, et que les parents, évidemment, à juste titre, là, s'en méfient très fort, parce que ça va très très vite, on a un sentiment d'écrasement absolu.
Et puis avec le cyberharcèlement, la taille du groupe est hypertrophiée. Rappelons que le harcèlement, c'est un phénomène de groupe. Et alors, dans ce phénomène de groupe, il y a le harceleur,
oui.
Il y a la personne cible, la victime, et puis des spectateurs plus ou moins actifs.
Oui, que moi j'appelle même des spectateurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont pas plus ou moins actifs, ils sont toujours actifs, même si vous regardez que vous ne faites rien. Je l'ai vu, moi, quand j'ai interrogé des jeunes après des tentatives de suicide ou des suicides avérés, les harceleurs directs ont des systèmes de défense qui sont parfois d'ailleurs très difficiles à entendre, du style, on a bien fait de la foutre en l'air, de toute façon, elle était nulle. Ceux qui s'effondrent tout de suite, dès le premier entretien, ce sont ceux qui ont liké, simplement, qui ont rajouté un petit commentaire, hein, et qui ont participé au lynchage, et qui là, eux, n'ont pas le système de défense mis en place, et donc eux s'effondrent directement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de spectateur du cyberharcèlement.
Peut-il y avoir cyberharcèlement sans spectateur?
Non. Absolument impossible. Ils sont au moins, et c'est pour ça que les réseaux sociaux peuvent être virtuels, de nouveau, dans le témoignage qui a été donné avant l'émission, on a des spectateurs virtuels. Le but n'est pas un vis-à-vis, uniquement une personne à qui on aurait, par exemple, téléphoné pour émettre des messages de menace, c'est le faire et le rendre nécessairement public.
Stéphanie Devancé, je rappelle que vous publiez un manuel d'autodéfense contre le harcèlement en ligne. Les trolls sur Internet, ils ont besoin de spectateurs également?
Ah oui, oui, ça fait partie de leur prestige. Sur Twitter, par exemple, ils aiment bien montrer comme trophée les personnalités qu'ils ont bloquées. Et plus la personnalité est importante et est suivie, plus c'est un trophée qui a de la valeur. Donc oui, ils ont bien sûr besoin de spectateurs et ils agissent parfois et même souvent en groupe.
Quel plaisir les spectateurs tirent-ils de cette mise à mort en ligne?
Alors, qu'elle soit en ligne ou réelle, de toute façon, le principe, c'est de produire des secousses émotionnelles pour que la personne, à un moment donné, soit amenée soit à se soumettre, soit à se démettre. Le principe, c'est pour ça que et le conseil que certains parents donnent, ne va pas sur les réseaux sociaux, t'as qu'à abandonner, n'est pas du tout un conseil utile. Il marche pas. Si je vous dis que y a 300 personnes qui sont en train de déblatérer sur votre compte, mais faites pas attention. Vous allez au moins vouloir. Et la jeune fille dans le témoignage qu'on a entendu le dit, c'est presque un rituel. mensuel, j'allume pour vérifier si je sais que je vais entendre toujours la même chose, va te pendre. Donc c'est toujours se démettre ou se soumettre. C'est le but et ça doit être une démission ou une soumission publique.
Mais quel est le plaisir des spectateurs?
La prise de pouvoir en termes d'agressivité hiérarchique. C'est pour ça que c'est pas une agressivité de prédateur, c'est pas une agressivité par peur, c'est uniquement une agressivité hiérarchique. Le but, c'est de gagner en puissance et de prendre du pouvoir sur un espace. Si je l'ai pas dans l'espace réel, je le prendrai dans l'espace virtuel.
Et pourquoi les spectateurs éprouvent si peu d'empathie pour ces mises à mort numériques?
Ça, c'est l'effet de groupe qui va fonctionner, l'effet de meute plus exactement que de groupe, c'est-à-dire qu'on attaque en groupe et si c'est lui, c'est pas moi. Donc on a aussi un certain nombre de spectateurs qui sont des victimes potentielles et qui sont paradoxalement rassurés par le fait que eux sont à l'écart de l'agression.
Julien Bisson-Dur.
Oui, il y a un excellent épisode de la série Black Mirror sur cette question du lynchage par les réseaux sociaux, la facilité qu'on peut avoir à simplement recopier un hashtag qui fait mal, qui provoque en nous une sorte de plaisir mauvais, celui de faire du mal mais sans forcément se sentir coupable. Et dans cet épisode de Black Mirror, il y a une réponse, une violence, une revanche qui est faite contre ces cyberharceleurs, que je vous laisserai découvrir, mais qui pointe bien justement à quel point il faut bien dire à ces meutes de spectateurs qui pensent qu'ils ne sont pas acteurs mais qu'ils sont responsables soit parce qu'ils participent ou alors parce qu'ils ne font rien, parce qu'ils ne dénoncent pas.
Ça va donner d'ailleurs une catégorie juridique. On est en train de travailler en Belgique, le harceleur passif, parce que il a autant de responsabilités, si pas plus parfois, que le harceleur actif. Il rend inopérant, c'est comme ça qu'on travaille dans les écoles d'ailleurs, en déconnectant le harceleur dominant des gens qui finalement lui donnent du pouvoir. Si ce que vous faites, y compris en troll, ne suscite aucun intérêt, vous allez arrêter de troller, parce qu'on ne troll pas pour soi, on troll pour se mettre en spectacle devant les autres.
Stéphanie Devancé.
Oui, moi, ce qui me semble embêtant dans ce processus-là, c'est le fameux « don't feed the troll » qu'on érige en adage absolu, qui veut dire ne pas nourrir le troll, donc ne pas se préoccuper de ce que dit le troll. C'est bien entendu une possibilité que la victime peut choisir d'adopter, mais si on l'érige en solution, ça veut dire qu'une victime qui se défend, qui réplique, qui ne se soumet pas, est une victime qui est responsable du fait que ce harcèlement continue dans la tête de certains. Et ça, c'est très embêtant et je pense que c'est vraiment une réflexion qu'il faut qu'on mène tous.
C'est tout à fait d'accord, le principe, et c'est pour ça que je me méfie toujours, des messages qui disent aux enfants, aux adolescents, défends-toi toi-même. Parce que c'est aux institutions à trouver des moyens pour non pas dire aux gens ne regardez pas, mais au contraire disqualifier le message. Et ça fonctionne. Dans les classes, qu'on appelle les espaces de parole régulés, on aura l'occasion d'en parler, permettent en réintroduisant du visage, que certaines personnes sortent à leur durant et disent « mais non, il n'y a pas à produire cette image-là, il n'y a pas à la regarder, etc. » Et là, le harceleur perd sa fonction de dominant agressif.
David Groison de Phosphore.
Pour le message aussi, je trouve qu'on peut dire aux spectateurs ou aux meutes, c'est-à-dire que tous les gens qui ont été victimes de harcèlement, ils disent à quel point un sourire, un message de sympathie, qui peut être d'abord en messagerie privée, c'est-à-dire de dire je vois ce que tu subis, je suis à tes côtés, ça peut compter si on veut pas trop s'exposer. Et puis si on a le courage de pouvoir dire bah arrêtez, de dire moi je trouve ça choquant, je trouve ça pas drôle, ça aussi c'est des messages. Toutes les victimes qui prennent la parole publiquement disent à quel point ça a compté, que dans cette meute-là, quelqu'un re-individualise, repersonnalise le message.
Et d'ailleurs, Laetitia Gaillet, qui a raconté son harcèlement avant l'émission, reçoit de très très nombreux soutiens sur notre page Facebook.
Mais je pense que c'est à la fois vrai et en même temps, on ne peut pas demander aux gens de réagir individuellement. Il faut que institutionnellement, on ait des espaces de parole protégés, dans lesquels ceux qui ont envie de réagir, qui sont la majorité, quand les expériences qu'on a réalisées montrent que surfer tranquille, c'est le désir de quasiment la totalité. Ça veut dire que dès qu'on ouvre des espaces dans lesquels la prise de parole sera protégée, on n'est pas alors dans des petits espaces privés où on dit « je comprends ce que tu vis ». On est dans des prises de position collectives qui sont valorisées socialement.
Bruno Humbert, quelles sont les différentes formes de cyberharcèlement? J'aimerais qu'on parle d'abord de l'embrasement. L'idée, c'est quoi? C'est d'incendier l'autre de manière brutale, intense et rapide.
Voilà, alors ça peut aller très très vite parce qu'il y a des réseaux qui sont organisés. Je prends l'exemple du site des Grenets. Le site des Grenets, c'est un truc qui paraît marrant a priori. J'envoie la photo de ma classe et l'application va aller chercher la personne qui a le plus gros nez et l'envoyer, l'isoler, sa photo, et là il va être incendié avec des messages qui, évidemment, quand on explique ça à des adolescents, on dit bah, c'est marrant le site dégrené. Si vous avez une estime de vous-même stable, c'est vrai qu'il y a moyen de passer au-dessus du lynchage médiatique. Mais si votre estime de vous-même est instable et que vous voyez des messages du style c'est vrai que t'as un gros nez, mais il n'est pas encore assez gros parce qu'on voit encore ta sale gueule, t'as fait un procès à tes parents pour avoir un nez pareil, etc. Vous avez des gens qui sont effondrés. Le site Mort aux salopes fonctionne de la même façon. Votre copine a été, vous a quitté, vous faites une photo d'elle, vous l'envoyez sur Mort aux salopes. Vous allez voir apparaître des gens qui vous connaissent pas et d'autres qui vous connaissent, qui vont émettre des messages négatifs. Ça, c'est de l'enflammement. Ça enflamme la personne très, très vite.
Dans l'embrasement, carbonise l'autre de paroles et d'images dégradantes. L'objectif, c'est d'anéantir l'autre rapidement et complètement. Je cite un exemple tiré de votre livre, adressé à Louise, sur son téléphone. « Tu n'es qu'une merde, tire la chasse. C'est normal d'être aussi laide. Tu fais honte à l'humanité. Tu pourrais nourrir les cochons. Même un cochon, il ne veut pas de ton gras. Tu ferais mieux de te suicider. » Voilà le message reçu par une adolescente qui s'appelle Louise.
C'est très très fréquent. Hein. Patrick Bruel en a fait une chanson sur cette jeune fille. C'est effectivement quelque chose qu'on voit très souvent parce que le but est dans l'embrasement. On sait qu'on peut amener l'autre à se démettre ou à se soumettre très très vite. Donc les appels au suicide, par exemple, sont récurrents. On crée des petites secousses émotionnelles. On t'aime pas. C'est généralement d'ailleurs ces jeunes filles ou ces jeunes garçons ne sont pas des dominés passifs dans les groupes. Ce sont des dominants contrariés. Ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont plutôt un profil solaire. C'est d'ailleurs très culpabilisant pour les parents qui connaissent une tentative de suicide ou un suicide avéré, c'est qu'on voit rien venir. On a affaire à quelqu'un de solaire qui s'éteint d'un coup et par cette forme d'incendie qui est généralisé finalement, ou qui est perçu comme généralisé. On a l'impression au début, ce à quoi la personne qui est incendiée est attentif, c'est pas seulement l'agression, c'est le nombre de personnes qui vont émettre des messages positifs. On l'a tous. Moi, j'écris régulièrement dans la presse en ligne. Il y a des gens qui me traitent aussi d'imbécile, de connard, de facho, de gaucho, de tout ce qu'on veut. C'est pas un problème. On est capable de supporter ça. On sait que si on écrit dans un espace public, on prend ce risque-là. Mais si vous êtes traité d'imbécile et que vous avez 60 likes, vous êtes écrasé. Et là, demander à la personne de répondre elle-même. Bah, je vais pas prendre mon petit truc en disant, vous savez, je suis pas tellement un imbécile si vous voulez lire l'article jusqu'au bout plutôt que vous contenter du titre. Non, on est incendié et on est écrasé par le nombre.
Autre forme de cyberharcèlement, la consommation par harcèlement. Ça veut dire quoi?
Alors ça, c'est plus lent. C'est plus lent.
Blesse à petit feu. Sont des messages qui blessent à petit feu.
Et qui utilisent l'espace réel. Je vais faire des choses dans l'espace réel et je vais leur donner une résonance. Par exemple, je vais vous bousculer ou vous humilier, je vais faire un petit film et puis je vais le mettre. Je vais vous injurier, je vais remettre le petit film le soir. Donc là, dans la consommation, l'espace réel et l'espace virtuel interagissent en permanence.
L'idée, c'est de limer patiemment l'estime de soi de la victime. Un exemple tiré de votre livre, tu te rends compte que personne ne t'aime. En fait, tu n'as pas de vie, tu peux rien, t'es moche et on t'aime pas. On en a marre de toi.
Ça, c'est le typique des réseaux sociaux. Si vous mettez une photo de vous ou si vous avez une page Facebook et personne ne va dessus, vous allez devenir un no-life. On copie votre page, on l'identifie, on dit « Regarde, elle n'a pas d'amis, un sans-amis, un no-life ». Et ce sont des manières qu'on trouve les personnes ayant, parce que le principe de l'adolescence actuellement, c'est d'exister, c'est-à-dire d'être signifiant et existant. La pire catastrophe, c'est d'être inexistant ou insignifiant. Et les réseaux sociaux, les gens moins existants ou ayant peine à signifier des choses, sont très très vite pourchassés par ce phénomène-là.
Alors l'idée dans le cyberharcèlement, c'est de ne pas laisser en paix sa victime. C'est le cas des trolls harceleurs.
De ne pas
laisser en paix leur victime.
Ah oui, bien sûr, oui, c'est effectivement ce qui vient d'être décrit, mais là plutôt uniquement en ligne. C'est des séries de toutes petites choses. Chaque message est commenté, chaque occasion est décortiquée. Et puis il y a aussi les allusions qui reviennent, c'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont complètement anodins pour un lecteur qui n'est pas au courant du contexte, mais qui va toucher la victime et lui rappeler que le troll a capté tel ou tel élément de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait. Et ça peut être très, très insidieux.
David Groison, de Phosphore.
Est-ce que on est en paix?
Ouais.
Ouais.
Des témoignages peut-être.
Ouais, on a des témoignages qui montrent à quel point la portée elle est impressionnante, c'est-à-dire le jusqu'à présent au collège ça reste dans l'enceinte du collège, le lycée ça reste dans l'enceinte du lycée. Là effectivement ça peut être le monde entier qui s'attaque à vous et sur des éléments de différence qui sont particulièrement ce que vous citez, c'est le poids, est-ce que je suis trop gros, trop maigre, est-ce que je suis une fille, un garçon, est-ce que je suis trop masculin, trop efféminé, ma couleur de peau, etc. Donc tout ce qui est extrêmement sensible au moment de, voilà, entre 10 et 18 ans, du moment de la construction de soi, où c'est impossible de demander à quelqu'un d'être sur ses deux pieds, en assurance sur ces questions-là.
Mais on est en pleine construction identitaire. Le profil de la personne qui aurait une différence ou voire un stigmate et qui est utilisé pour agresser, c'est pas toujours nécessaire. Hein. Il faut bien se dire qu'on a des personnes qui sont parfois ce que j'appelle des dominants contrariés, donc qui sont des gens charmants, avec beaucoup de charisme, etc., qui se retrouvent bousculés dans un premier temps dans l'environnement réel, donc dans la classe. Par exemple, le cas typique, c'est deux anciennes meilleures amies, et l'une est éjectée du groupe des dominants, et puis l'autre, prenant la fonction de dominant, utilise toute la classe avec alors la caisse de résonance qui est l'espace virtuel, qui peut être un espace virtuel complètement silencieux. On a des agressions numériques dans lesquelles ce ne sont que des gens qui se connaissent les uns les autres, mais le fait d'avoir simplement cette caisse de résonance possible rend les agressions plus spectaculaires au sens plein du terme.
Qui sont les harceleurs, les trolls? Que sait-on de leur psychologie, Bruno Lambeck?
Pas grand chose, j'allais dire, parce que c'est aussi une question de configuration de groupe. C'est pour ça qu'il faut être attentif aussi aux saisons du harcèlement. Si vous regardez dans les écoles, en septembre, tout va bien partout, parce qu'il y a l'euphorie communautaire, on le voit dans tous les jeux de télé-réalité. Dans un premier temps, les gens sont contents. Puis progressivement, vous allez voir apparaître les premières secousses émotionnelles. On commence à vouloir éjecter les gens du groupe, etc. Ce qui fait qu'on parle tous sur le dos les uns des autres. Il commence à y avoir les premières secousses. Ça dure dans ce qu'on appelle, nous, la moyenne saison du harcèlement. Puis vous avez une haute saison du harcèlement. On est en plein dedans, en termes de harcèlement, où ceux qui ont été fragilisés pendant la première période sont alors anéantis parce que le groupe s'est formé et qui sont complètement isolés. Et là, on a affaire à des stratégies de mobbing, c'est-à-dire la personne fragilisée est anéantie par le groupe. Généralement, ça s'arrête d'ailleurs vers la mi-mai où il y a une nouvelle basse saison.
Mais il n'y a pas de psychologie du harceleur.
Il
n'y
a pas de psychologie.
Stéphanie Devancé, il y a une psychologie du troll?
Pareil, je me suis informée notamment auprès de Yann Leroux, qui est psychologue et qui a travaillé sur les trolls. Et il m'a dit non, surtout, il ne faut pas psychopathologiser le troll, même s'il y a des traits spécifiques. Le comportement de troll s'inscrit dans un tableau clinique qu'on ne peut absolument pas déterminer juste à partir de l'action en ligne d'une personne. Donc on a des profils extrêmement divers et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on peut tous à un moment donné glisser vers la trollitude de façon légère et locale si on est quelqu'un de plutôt sain, et de façon complètement pathologique si on est quelqu'un qui ne va pas bien.
Et vous écrivez, Stéphanie Devancé, dans votre manuel d'autodéfense contre le harcèlement en ligne, « Voir l'humain derrière le troll le rend plus pathétique qu'inquiétant ».
Oui, alors il se trouve que j'ai eu personnellement l'occasion de voir en vidéo un de mes trolls les plus virulents. Et quand on découvre tout à coup que c'est un petit monsieur tout à fait ordinaire, qui n'a même pas de charisme, qui a une expression réelle, enfin en tout cas via la vidéo, complètement banale, alors que sur Twitter il nous faisait peur avec ses remarques incisives et cyniques. Lui, alors il ne me fait plus aucun effet.
Et en avril 2018, le bimensuel Society consacrer sa une au vrai visage des trolls, et c'était pas beau à voir, leur vie était souvent pathétique, voire plus.
Oui, tout à fait, je recommande vraiment ce numéro.
Bonjour Paloma, vous appelez de Versailles, bienvenue.
Oui, bonjour.
Quel âge avez-vous, Paloma?
J'ai 16 ans.
16 ans. Vous avez été cyberharcelée?
Oui.
Expliquez-nous un petit peu.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était au collège. J'ai été agressée sexuellement par un de mes camarades de classe. Et après, quand il en a parlé du coup à ses camarades, en disant qu'il s'était passé quelque chose entre nous, j'ai reçu plein de messages de haine en m'insultant de pute, de salope, et on parle de 5-10 vidéos par jour pornographiques sur tous mes réseaux sociaux. Ça a duré comme ça pendant un ou deux mois. Puis ça s'est calmé et c'est revenu après au lycée.
Et vous avez développé une phobie scolaire, vous nous avez dit ça hors antenne.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que même au collège, en fait, les gens me crachaient dessus. Et vraiment, j'étais exclue de tout, ça n'avait plus aucun ami, plus rien. Et du coup, quand je suis arrivée au lycée, je pensais que ça allait être un nouveau départ. Et ça a été tout le contraire. Et je me sentis... très très mal en fait de me retrouver avec une communauté de mon âge, et du coup j'ai développé une phobie scolaire, j'ai dû avoir un emploi du temps aménagé, je suis tombée en dépression aussi.
Et comment, voilà. Comment êtes-vous aidée aujourd'hui, Paloma?
Alors, je suis suivie par une psychologue depuis un an et demi. Je suis suivie par une psychologue et j'ai porté plainte pour agression et harcèlement. Et aujourd'hui, on attend la fin du procès.
Que pouvez-vous dire, Bruno Humbeck, à Paloma, avec ce témoignage très fort?
Qu'elle ne prenne pas ça comme étant quelque chose qui est lié à ce qu'elle est. J'entends qu'elle est suivie par un psychologue, c'est très bien. C'est très bien et en même temps, c'est embêtant parce qu'elle pourrait dire « c'est moi qui ai un certain nombre de caractéristiques ». La première chose qu'on doit dire à quelqu'un comme Pamela, c'est « c'est pas toi ». C'est pas ta faute et c'est à nous à réagir. Les institutions, on doit équiper les écoles, on doit équiper les structures. Il y a des outils, ils existent. C'est de l'autisme pédagogique que de considérer qu'il n'y a pas d'outils. Mais évidemment, c'est beaucoup plus facile d'envoyer quelqu'un chez le psychologue en disant c'est sûrement toi qui fonctionne mal. Elle a été victime simplement d'un mécanisme de groupe qui a créé effectivement des dommages sur le plan de l'estime de soi, sur le plan ce qu'elle appelle maintenant une dépression. Mais a priori, elle devrait pouvoir se dire maintenant en tant qu'adulte. Agissez pour faire, et c'est vrai aussi dans l'environnement professionnel, hein, on doit pouvoir agir pour qu'une personne ne soit pas amenée à se défendre elle-même. Ce qui semble difficile à vivre pour elle, c'est de devoir considérer qu'en même temps elle est victime, d'une part qu'elle aurait des caractéristiques qui auraient justifié qu'elle soit victime, et des caractéristiques qui l'empêchent de sortir de ce qu'elle est en train de vivre.
David Groison.
On parlait tout à l'heure de psychologie des harceleurs, il n'y a pas de psychologie non plus des victimes, et ce qui est chouette dans ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a plein de prises de parole publiques, notamment toutes les personnalités qu'adorent les ados, tous les youtubeurs, et on voit à quel point des harcelés, il y a Enjoy Phoenix, il y a Marion Stéclin la semaine dernière, il y a David Lafarge Pokémon qui a montré plein de messages où il se faisait harceler sur son poids. Il y a vraiment plein de gens comme ça qui montrent à quel point c'est divers. C'est
vrai. Merci beaucoup Paloma d'avoir eu le courage de témoigner ce matin. Julien Bisson, cette semaine dans l'hebdomadaire Le 1, une question, pourquoi tant de violence?
Oui mon cher Ali, on va parler de cette violence dont le dramaturge grec Eschyle disait qu'elle produit un épi de malheur et ne fournit qu'une moisson de larmes. Cette violence qui fait la une des journaux télévisés tous les samedis soirs désormais, plus spectaculaire, plus télégénique sans doute que le cyberharcèlement. Mais au fond, est-ce plus grave de brûler un restaurant ou l'avenir d'un adolescent? Si la violence appartient à une certaine mythologie française, elle mérite aujourd'hui qu'on la comprenne, qu'on l'explique. Elle est devenue si commune qu'il faut étudier notre société où, comme le dit Mona Ouzouf dans Zadig, l'ensauvagement des mots précède l'ensauvagement des actes. Qui oserait penser que la violence d'un enfant n'est pas le fruit du dysfonctionnement de sa famille? S'interroge ainsi Stéphane Brisé, le réalisateur des superbes films La loi du marché ou En guerre. Qui oserait penser que son histoire et son lien avec ses parents ne comptent pas dans ce que l'enfant devient? Personne? Ou bien ceux pathétiques et tragiques qui se cachent derrière le déni pour ne pas faire face à leur incapacité à se regarder en face? Ceux qui ne veulent rien déconstruire de leur certitude parce qu'ils ont peur, au fond, de l'abîme dans lequel leur propre vérité les plongerait. Il faut accepter de regarder ce qui dysfonctionne dans la famille pour comprendre la violence de l'enfant, et il faut accepter qu'une société regarde ce qui ne va pas chez elle pour comprendre la réaction d'une partie de sa population.
Comment peut-on remédier alors à la violence? Vaste question, Julien.
Oui, vaste question. Alors, aux violences politiques, aux revendications politiques, il faudra apporter des solutions politiques, sans doute plus efficaces sur le long terme que les grenades de désencerclement ou les lanceurs de balles de défense. Mais la violence à laquelle nous sommes confrontés, elle n'est pas propre au samedi de défilé, elle finit par s'insinuer dans tous les rapports sociaux, à l'école, dans la famille, et même dans les rapports entre un animateur radio et ses chroniqueurs. En version douce, ça donne le muflisme qu'évoque Philippe Meyer dans nos pages. Pas de mots dissonants, pas d'injures, pas de horions, juste ces façons de signifier à autrui qu'on se passerait volontiers de son existence. En version dure, la violence sociale peut aboutir, elle, à l'agression, au harcèlement, au cyberharcèlement. Et à ceux qui souffrent de ce genre de violence du quotidien, je ne saurais que trop recommander le reportage de Manon Pollic sur les ateliers de communication non violente, inspiré par les écrits de Marshall Rosenberg. Partant du postulat que les êtres humains partagent les mêmes besoins fondamentaux, ils possèdent tous une capacité naturelle à se montrer bienveillants. Rosenberg a élaboré une méthodologie de communication basée sur l'écoute empathique en 4 étapes. Observer sans jugement la situation vécue comme violente, formuler le sentiment ressenti face à cette dernière, exprimer son besoin profond et enfin formuler une action concrète, réalisable et satisfaisante pour toutes les parties. 4 étapes, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire.
Pourquoi tant de violence? C'est le thème à la une cette semaine de l'hebdomadaire Le 1, à retrouver en kiosque et en librairie. Merci Julien Bisson. Dans quelques instants, nous verrons comment combattre efficacement contre le cyberharcèlement. 01 45 24 7000.
j'ai sobre, je m'isole pendant des heures. Info, désordre, tu me manques déjà. Le silence résonne, l'avenir nous sépare. T'en fais des tonnes, un grand écart. L'avant, demain, l'argent, les uns. Ses yeux, ses seins, le mieux, le bien. Mon pas, c'est simple, des pas, c'est ça. Le faire part, message, rentrer chez soi. Happy end, massage, les filles n'aiment pas ça. Le papier, mâché, mes adieux, bâclé, je t'ai vu tweeter. En ville, t'éclats, single, fruité, le bruit de la bécane. Les gens là-bas demandent de l'aide. Je n'en ai pas, cœur porcelaine. Danser en bas du bat, penser jamais te revoir.
Interpréter, théâtre raté. Conscient, j'accuse, porno sans sucre. Salade de peur, j'atteins, je meurs. En garde à vue, au fond du cœur. H24 au bord, falaise. Les gendarmes en caoutchouc. Révolution, pomme d'amour. Offrir fleurs, réveil en sueur. Écran d'accueil au paradis. Moteur de recherche des sentiments. Rire à nos drames plus gentiment. Orgasme, erreur, retard des pleurs. Nouvelles insultes à inventer. Au bonheur de la maladresse. J'ai cru en moi dans la paresse. J'ai joué des femmes qui tuent des hommes. Sérigraphie, mais il est folle. Patinage sur eau de mer. Au bal masqué, robot de verre.
Columbine interprété Puzzle.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse au cyberharcèlement. Vous pouvez témoigner au 01 45 24 7000.
Dorian, 17 ans, a été persécuté pendant des semaines sur le réseau social Ask.
Les messages comme « t'es grosse, t'es moche, va te pendre », les choses comme ça, sur des sujets personnels ou alors concernant mon orientation sexuelle. Donc un message que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, « sale lesbienne, va goûter à ma bite poilue, tu vas aimer ». Des fois, on a envie de péter les plombs, quoi.
Ask est basé sur l'anonymat et a fait des ravages outre-Atlantique. On lui attribue plusieurs suicides d'adolescents.
Extrait de France Info en 2013 avec un témoignage de Dorian, âgé de 17 ans. Alors on va essayer d'esquisser des solutions. L'auditeur nous demande, que faut-il dire à un cyberharceleur pour qu'il arrête, Bruno Humbeck?
Alors, il faut lui dire d'arrêter, tout simplement. Mais ça semble simple.
Semble un peu simpliste.
Non, parce qu'il y a des lois aussi qui existent. Et donc, il faut que les écoles, comme toutes les institutions, soient équipées de façon à la fois à générer du vivre ensemble. C'est un mot dont on doit se méfier, parce que c'est pas une formule magique, le vivre ensemble. Ça se construit. Il y a des règles. Elles ont été esquissées, d'ailleurs, dans la communication non violente. Nous, on les met en place de manière plus précise, en disant, on contredit pas les émotions de celui qui sont en train d'en vivre une. Elle est... inattaquable. L'émotion n'est pas susceptible d'être contredite. On laisse la personne exprimer son émotion jusqu'au bout et on va constater que ça génère systématiquement de la bienveillance. Si quelqu'un ici explique qu'il est triste et qu'on lui donne un bâton de parole, on lui dit voilà, tu vas expliquer pourquoi tu es triste et personne ne va l'interrompre, il le fait sans accuser personne, on n'est pas en train de faire un procès, ça va générer du mouvement à l'intérieur des groupes. On le voit systématiquement dans tous les groupes. Ça, c'est la gestion du vivre ensemble. Il y a des outils qui fonctionnent, mais il y a aussi des lois. Et c'est pour ça, quand je dis, il faut lui dire de s'arrêter, l'usage asocial des réseaux sociaux est interdite. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir le souci d'une trace. L'application qu'on met en place actuellement, qui a été stimulée par la ville de Mons, et qui est une application qui permet simplement de faire automatiquement, vous avez en gros, quel que soit le réseau sur lequel vous vous trouvez, quel que soit l'outil que vous utilisez, vous avez l'équivalent d'un petit bouton rouge. Vous êtes agressé, vous appuyez dessus, automatiquement, des copies d'écran se font, et l'autre voit que des copies d'écran sont faites, et il est averti. Il y a suspicion d'agression, copie d'écran, et un deuxième bouton apparaît si tu as besoin d'aide ou si tu estimes être cyberagressé. Et là, le dossier est envoyé systématiquement, soit à l'école, si l'école est équipée pour réagir contre le harcèlement, et les écoles doivent l'être, elles le sont quasiment de plus en plus, en tout cas en Belgique, elles doivent l'être nécessairement, à mon avis, en France, et on a énormément de demandes en France.
Comment s'appelle cette appli ?
C'est le CyberHelp.
David Groison.
Ce qu'il faut dire aussi aux institutions scolaires, aux collèges, aux lycées, c'est d'éviter l'entretien de confrontation. C'est-à-dire de dire, on démarre directement le harcelé, le harceleur, et on va régler ça dans le bureau du CPE. Il y a la méthode d'Anatole Picasse qui marche très bien en Finlande, au Canada.
C'est quoi?
C'est l'idée d'avoir plusieurs entretiens avec le harceleur pour lui dire à la fois que c'est pas bien, mais lui faire prendre conscience de son acte et d'essayer de développer de l'empathie pour la victime, pour la repersonnaliser et pour...
Ça demande beaucoup d'énergie. La méthode Picasse est très bien pour des cas extrêmes, mais je pense qu'il faut des procédures généralisées. Ce qu'on met en place aussi par le CyberHelp, c'est des cyber-citoyens responsables. Ce sont des jeunes qui ont été sensibilisés, auxquels on peut faire appel dès qu'on est cyberagressé, et qui ne prennent pas de décision eux-mêmes, et qui se mettent en contact avec les adultes qui, eux, mettent en place le dispositif.
Bonjour Delphine Auffray.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes la directrice du programme Internet sans crainte et vous avez mis en place Net Écoute, c'est un numéro vert national destiné aux enfants et adolescents confrontés à des problèmes dans leur usage numérique. C'est 100% anonyme, gratuit et confidentiel et on peut d'ailleurs appeler le 0800 200 200, 0800 200 200, si on est cyberharcelé, de 9h à 19h. Qui écoute?
Alors, je reprécise un petit peu. Voilà, le Internet sans crainte fait partie d'un programme qui s'appelle le Safer Internet, un programme européen. Mmh. Et donc en France, on a un numéro que vous venez d'en parler, mais on a également on propose des ressources numériques, comme c'était évoqué juste avant moi, juste pour travailler dans les écoles et adresser les témoins et pas forcément juste le harceleur, parce que la méthode Picasse évoqué précédemment, demande effectivement beaucoup d'énergie et est utilisable sur des cas très particuliers. Mmh. Nous, on cherche à avoir des moyens d'action beaucoup plus larges dans les écoles. Donc, on travaille à Internet sans crainte avec l'Éducation nationale, avec la Ligue de l'enseignement, avec le ministère de l'Intérieur, pour essayer de proposer des moyens d'action concrets.
Donnez-nous des exemples, Delphine Auffray. Donnez-nous des exemples. Je suis cyberharcelé. Qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi un exemple concret.
Alors, je peux donner quelques conseils. Déjà, ne jamais répondre aux moqueries, aux intimidations des uns et des autres, mais en garder une trace, comme on l'évoquait. En parler à un adulte responsable, que ce soit un parent, un encadrant, un enseignant, signaler au réseau social directement les actes de cyberharcèlement. Ils sont extrêmement vigilants face à tout ça. Savoir paramétrer ses comptes. Il y a tout un système, on peut enseigner aussi le paramétrage. Et ensuite, contacter une plateforme d'écoute. Que ce soit Net Écoute dont vous venez de parler, ou alors non harcèlement, le numéro national du 30-20. Il y a des plateformes où des écoutants vont pouvoir aider les victimes. Et puis l'éducation est importante aussi. Et finalement, travailler avec les enseignants sur une ressource numérique, c'est aussi lancer le dialogue. Et je pense que c'est très important de parler des usages, d'aider à réfléchir et de poser pour les victimes, mais aussi pour les harceleurs, parce que c'est des catégories qui ne sont pas étanches. On peut être parfois harceleur, même sans le savoir, puis victime. Donc c'est important de poser un cadre de confiance pour réfléchir à tout ça. Et tout en répétant qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Il y a certes des zones grises, mais la loi est là, et le cyberharcèlement est réellement un délit.
Stéphanie Devancé, comment se protéger des trolls, tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui guettent leur proie pour les agresser à coups de messages violents? Il n'y a pas de règle absolue.
Non, je pense qu'il faut vraiment... mais là, je parle plutôt en tant qu'adulte. Pour les jeunes, c'est autre chose. En tant qu'adulte, il faut essayer de mettre les choses à distance pour soi. Il faut profiter que ça se passe en ligne pour prendre le temps d'y réfléchir posément, voire d'en parler avec des alliés, des gens qui ont déjà vécu ce genre de situation et qui vont être à même de comprendre. Et il faut faire, je dirais, comme on le sent et comme ça nous convient. Si ce qui nous convient, c'est d'ignorer totalement le troll, et ça peut lui faire lâcher prise, on fait ça. Si on a envie de répondre quelque chose, on le fait, mais pas dans l'instant et pas dans le coup de l'émotion.
En maîtrisant ses émotions. Voilà. Et d'ailleurs, vous donnez une série de conseils très utiles. Par exemple, rester poli et respectueux. Utiliser des phrases courtes et des formules toutes faites. Jouer les naïfs en faisant mine de ne pas comprendre. Utiliser l'effet miroir. C'est quoi ça, l'effet miroir?
L'effet miroir, c'est répondre en réutilisant les tournures de phrases et la rhétorique de la personne pour lui démontrer à quel point elle est stupide si on la réutilise telle quelle. Mais ça suppose d'avoir pris de la distance avant. Ça suppose de ne plus être sous le coup de l'émotion, de l'agression qu'on vient de recevoir. Et c'est tout l'avantage des réseaux. Il y a plein d'inconvénients et effectivement, ça peut poursuivre, le harcèlement peut se poursuivre davantage. Mais ça a aussi un avantage que la victime peut se poser et réfléchir là où parfois dans la vraie vie, au tac au tac, on n'a pas la bonne réponse. Là, on peut prendre le temps de trouver la bonne réponse.
On peut également jouer la carte de l'humour.
Tout à fait.
La technique du désamorçage, c'est quoi ?
Le désamorçage, ben justement, c'est par l'humour ou par les phrases toutes faites qui fonctionnent très très bien. C'est votre avis, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas grave, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ce genre de choses, c'est très pratique et ça marche aussi d'ailleurs dans la vraie vie avec les gens agressifs et pénibles, parce qu'on ne peut rien répondre à une maxime ou à une phrase toute faite. Donc c'est une bonne manière de conclure l'échange sans agressivité.
Et puis rappeler le troll à l'ordre, lui rappeler la loi. Et puis il y a aussi la technique de la furie. De temps en temps, il est bon d'exprimer sa fureur. Contre les propos, pas contre le troll, voilà. Sans l'insulter.
Alors toujours pareil, hein, pas sous le coup de l'émotion, mais parfois un message très sec en disant c'est inadmissible ce que vous dites là, ce n'est pas possible, je ne l'admets pas, mais de façon contrôlée, toujours pareil. Il ne faut pas que ce soit sous le coup de l'émotion. Si on est sous le coup de l'émotion et qu'on a envie d'écrire quelque chose, on l'écrit, on ne le poste pas, on le relit 2 heures après, et 2 heures après on est en état de l'envoyer, modifier ou de décider de ne pas l'envoyer.
Bruno Humbeck, un dernier grand conseil pour les jeunes victimes de cyberharcèlement.
Mais s'adresser à des adultes qui savent et qui connaissent les outils qui permettent de réagir. Il faut vraiment pouvoir qu'on puisse entendre, dès qu'on est victime de cyberharcèlement, il y a des gens qui connaissent les outils. Il faut évidemment parfois le temps qu'on utilise les écoles. Nous, on le voit, des demandes d'école, il y en a tous les jours. Il y a en France comme en Belgique, qui demandent à être outillés. L'autisme pédagogique, c'est dire il n'y a pas d'outils. On ne doit pas laisser des gens dire il n'y a pas d'outils. J'entendais tout à l'heure la dame au téléphone. Ben, c'est un service avec lequel, évidemment, je prends beaucoup de plaisir à prendre contact juste après, parce que c'est important qu'ils connaissent les outils qui sont mis à la disposition des écoles. On doit équiper les écoles, on équipe les structures.
Et puis il y a également la menace judiciaire.
Bien sûr, bien sûr. Mais la menace judiciaire, la réponse judiciaire doit être couplée à la réponse pédagogique. Avec le cyber-help, vous avez en même temps une réponse juridique, parce qu'il fonctionne de la même façon, sur des copies d'écran, donc sur du format papier, et une réponse pédagogique. Et la famille a le droit de prendre une réponse pédagogique ou une réponse juridique, ou les deux.
Rappelons par exemple que la journaliste de 28 minutes, Nadia Dam, a obtenu la condamnation de l'un de ses cyberharceleurs, un étudiant de 27 ans qui préparait l'agrégation de philosophie, Charles Ivey, coupable de menaces de crimes et de viols. Il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis et 2 500 € pour préjudice moral. Voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus ce matin. Alors je recommande la saine lecture du manuel d'autodéfense contre le harcèlement en ligne de Stéphanie Devancé. C'est publié chez Duno. Merci Bruno Humbeck. Votre livre à destination de la communauté éducative, mais pas que, consacré au cyberharcèlement, est disponible chez The Book. Merci David Groison. À la une de Phosphore.
Comment aider un ami qui va mal.
Très très belle une. Et je rappelle le numéro de Net Écoute si vous êtes victime de harcèlement en ligne. Si vous êtes une jeune victime, 0800 200 200. Demain, on s'intéresse aux différents modes de contraception féminine avec Sabrina Debusca, qui signe un manifeste « Marre de souffrir pour ma contraception ». Si vous aussi vous souffrez ou avez souffert à cause de votre contraception et en particulier à cause de la pilule, n'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Élise Christophe et Kevin Peu. Kevin